BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
Au sommaire des pionniers cette semaine, tout d'abord le tête-à-tête avec un entrepreneur multirécidiviste. Il a grandi en Chine, mais il a choisi la France et l'Europe pour créer ses sociétés. Trois sociétés en à peine une dizaine d'années. Tout d'abord MyFab, puis Made.com et enfin la petite dernière Typologie qui est déjà la marque de soins cosmétiques responsable la plus vendue en ligne en France. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Ning Li.
Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch. Nous recevons deux entrepreneurs cette semaine. Romain Schmitt, président et fondateur de PharmCube, un accélérateur de recherche dans le végétal. Et puis Laurent Calu, le cofondateur de Boni.fr, une plateforme d'achat immobilier en ligne. Enfin, dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répond.
Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Ning Li.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Ning Li. Bonjour Ning.
Bonjour Fred.
Bonjour. Alors, tu es un entrepreneur multirécidiviste et à succès. Ce que tu aimes, toi, c'est disrupter les marchés, c'est bousculer ce qui existe, passer tout en digital, en ligne, le rendre plus accessible. Tu as exploré les ventes privées en fondant MyFab en 2007, puis tu as bouleversé le marché du meuble en ligne en fondant Made.com en 2009. Ces expériences ont été des succès fulgurants. Ce que tu as appris de chacune d'elles, tu t'en es servi pour fonder une troisième société aujourd'hui qui s'appelle Typologie, qui est la marque de cosmétiques responsable la plus vendue en France. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va parcourir un petit peu tout ce que tu as fait, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens, la manière avec laquelle tu prends tes décisions, ce que tu apprends sur la route et ce qui peut-être peut servir un petit peu à tout le monde. Donc, on explorera tout ça avec Stéphanie qui viendra nous montrer certains passages pour les illustrer et poser certaines questions. Et donc, on va commencer bien tout de suite. Alors, tu as grandi à Foshan, en Chine, dans le sud de la Chine.
Tout à fait.
Tu peux nous parler un petit peu, justement, de cette enfance en Chine.
Oui, je suis né en Chine et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, mes parents m'ont envoyé en France dans une pension. Et donc, mes parents sont les gens de classe moyenne, normaux. Donc, mon père travaillait d'abord dans l'armée de libération chinoise. Et ensuite, il s'est converti dans le civil, donc pour maire d'une petite ville dans le sud de la Chine. Et puis, ma mère faisait du service social dans la mairie. Et donc, j'étais baigné dans cette famille dans une région de Canton, en fait, qui a toujours beaucoup exporté les enfants à l'étranger. Donc,
c'est une famille c'est les AK, tu as dit.
Oui, alors c'est les AK, mais qui vivaient à Canton, parce que les AK n'ont pas de leur propre ville.
Alors justement, on a une photo de maison AK, ici. Explique-nous ce que c'est que ces maisons-là et comment ça fonctionne.
Alors, les AK, c'est une ethnie de peuples en Chine qui n'ont pas leur propre terre, parce qu'ils ont été chassés du nord de la Chine jusqu'au partout en Chine. Et comme ce sont les gens qui n'ont pas leur propre terre, souvent quand ils s'installent dans une ville, ils vivent en communauté, en famille, et ils sont souvent attaqués. Donc ils se sont, dans le passé, ils se sont sentis obligés de se protéger. Donc ils ont construit cette énorme maison, qui sont plutôt les forteresses, où ils vivaient entre eux.
Un peu comme un château fort, en fait.
C'est ça.
Mais en même temps, un hôtel, parce qu'il y a tout le monde habite dedans. En fait,
tout
c'est
le
un
monde
village.
Habite là-dedans.
C'est une maison-village.
C'est l'AK, oui.
Et donc, en 98, tu pars pour venir étudier et passer un bac en France. Donc tu as 16 ans quand tu arrives en France. Est-ce que tu peux nous raconter ce départ et cette arrivée?
Alors, donc à l'âge de 16 ans, comme beaucoup d'enfants de ma région en Canton, les parents envoyaient ceux qui peuvent, en tout cas, envoyer les enfants à l'étranger. Et pour nous, c'était la France, parce qu'il y avait ma tante qui connaissait l'interprète d'une école privée, qui a fait un voyage en Chine et qui a connu ma tante et qui m'a connu un peu par chance. Donc, ce directeur d'école qui m'a ramené en France, en Normandie, à l'âge de 16 ans, je suis venu donc en tant que premier membre de ma famille qui a mis ses pieds en France.
Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que personne de ta famille n'était jamais venu en France. Et toi, tu es venu à 16 ans pour y étudier.
Pour y vivre finalement jusqu'à présent. Et donc, mes parents avaient très peur que je décrochais à l'école puisque je ne parlais pas encore le français. Donc, ils m'ont mis 200 kilos de livres chinois dans les bagages en soute de mon avion.
Comment ils ont fait pour mettre 200 kilos enfin, c'est pas toi qui les portais?
Je crois que mon père a dû donner un petit billet au bagagiste pour ne pas payer une somme folle qui aurait coûté ses bagages.
Et donc, je rappelle que quand même, tu ne parlais pas le français 2 ans avant. Après le bac, tu rentres en prépa à Louis-le-Grand. Quand même un des meilleurs lycées de France. Ensuite, à cette prépa, tu intègres HEC Paris. Et ensuite, tu fais des stages au BCG, puis chez Rothschild. Tu te voyais faire carrière. Alors là, tu étais parti, justement, tu te voyais faire carrière dans ce domaine-là, dans le conseil ou dans la finance.
Complètement.
Là, on te voit à ta cérémonie de graduation de HEC, justement, avec un chapeau carré.
Bah, en fait, moi, je suis enfant d'une famille, fils unique d'une famille chinoise de mon époque. Et je suis, comme le système de sécurité sociale est assez faible en Chine, il n'y a pas vraiment de pension pour mes parents. Donc moi, je suis un peu la sécurité sociale de mes parents. Donc les attentes d'une famille chinoise, surtout quand t'es un fils, c'est que toi, tu payes un peu les retraites de tes parents. Et j'avais cette énorme pression quand je suis arrivé en France de, un, pouvoir... déjà réussi à m'installer en France, trouver un boulot, mais surtout pouvoir les payer leur pension quand ils sont à la retraite.
D'accord. Donc, t'avais une date à partir de laquelle il fallait que tu renvoies quelque chose.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est une pression morale plutôt que financière, mais néanmoins, c'est une énorme pression. Donc, mon objectif quand j'intègre à HEC, c'est de trouver le boulot le mieux payé quand je serai sorti de l'école. Et c'était à ce moment-là les banques et le conseil.
Alors, tu fais pas que des banques et du conseil, puisque tu deviens l'assistant de Marc Simoncini chez Mythic. Qu'est-ce que cette expérience t'a apprise? Là, on te voit donc justement dans l'équipe avec Marc.
Oui, alors, donc, en fait, à HEC, j'ai fait un programme qui est HEC Entrepreneur, où je devais faire un stage un peu de bras droit. Et j'avais beaucoup de chance, c'est que je me suis retrouvé auprès de Marc pour ce stage bras droit, au moment de l'IPO de Mythic. Donc, Mythic avait levé beaucoup d'argent à l'IPO, il devait faire des acquisitions.
Entrer en bourse, ouais.
Et entrer en bourse, etc. Et moi, j'avais fini mon stage chez Rothschild. Donc, j'ai dit à Marc, finalement, au lieu de payer des banquiers des millions d'argent, paye-moi mon stage, le salaire d'un stagiaire et je te fais les petits modèles en interne. C'était un peu comme ça.
Et donc, justement, en 2007... Tu poursuis, tes études sont terminées, ton stage aussi chez Mythic, et là tu lances avec Stéphane Sedbon ta première boîte, MyFab. Donc qu'est-ce qui t'a motivé? Alors au-delà du fait que Marc t'a dit, bon en gros, il t'a montré que c'était possible de créer une boîte et que c'était même souhaitable, pourquoi MyFab? Pourquoi à ce moment-là?
Donc Marc m'a dit, qui tente rien n'a rien, donc je me suis lancé. À un moment, j'ai dit à Marc, finalement, je vais lancer ma propre boîte. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été... Il y avait, bien sûr, tu connais Vent Privé.
Oui. Voilà.
Donc, je pense que Vent Privé était spécialisé sur le secteur du textile, mais ils ne vendaient pas vraiment au-delà de textile, enfin, fashion, les marques, d'autres verticaux. Et avec Stéphane, que j'ai connu à mon stage chez Rothschild, on s'est dit, probablement, il y a aussi une opportunité à utiliser la mécanique de Vent Flash à appliquer sur d'autres secteurs d'activité. Donc, on avait pour projet de créer un site qui s'appelait MyFab, mais qui vendait avec la mécanique de Vent Flash, c'est-à-dire une offre de discount pendant 3-5 jours, mais très attractif, moins 50%, pour un lot de, je sais pas, baby-foot, vélo, chemise, montre, mais vraiment de tout. Et on vendait déjà un peu de la déco, des coussins, des choses déjà à ce moment-là.
Donc c'est vraiment le modèle de la vente flash sur Internet qui a tous ces attraits-là. Mmh. Et donc, en à peine 2 ans, vous employez quand même 180 personnes entre la France et la Chine. Donc là, c'est vraiment de la très forte hyper-croissance, hein, passer de 2 à 180 en 2 ans. Comment tu as vécu cette période-là? Qu'est-ce que tu as appris sur cette hyper-croissance-là?
Je sortais de l'école à ce moment-là, donc je connaissais vraiment pas grand-chose. Stéphane, il avait 8 ans de plus que moi, donc il avait beaucoup plus d'expérience. Il manageait la partie levée de fonds, investisseurs. Ce dont je me rappelais, c'est qu'on avait passé, c'était en 2007, il n'y avait vraiment pas beaucoup de VC ou d'argent sur la place. Et on avait fait 100 rendez-vous pour enfin lever auprès de 5 personnes une tour de table de 2 millions pour lancer l'activité. Et ça nous a pris vraiment un an. Et après, à partir de ça, on s'est un peu réparti le travail. C'est moi qui manageais un peu les opérations internes et Stéphane s'occupait de toute la partie investisseurs, etc. Et l'aventure est arrivée assez vite et le démarrage assez vite. Je pense que le modèle de vente qui était assez unique finalement, et à savoir concentrer l'attention des consommateurs en très peu de temps, 3 jours, sur une offre hyper attractive qui est unique, qui ne trouve pas ailleurs, était assez convaincant pour...
Ça marchait par bouche à oreille. Comment ils ont su, les gens? Comment vous avez fait pour vous faire connaître quand même? Parce que faire une croissance aussi rapide, ça suppose que tout le monde te connaît, ou en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a aussi une chance énorme qui était un peu le démarrage de Facebook. Mm-hmm. On était une des premières marques à vraiment se positionner sur Facebook à ce moment-là. Et il n'y avait vraiment pas de concurrence. Donc, on a pu vraiment communiquer à fond sur Facebook à ce moment-là pour faire connaître notre offre. Et ça s'est un peu décollé comme ça.
Vous revendez MyFab à une branche de Kering, PPR à l'époque. Et tu pars faire un tour du monde. Et finalement, tu pars faire un tour du monde d'une année à peu près,
oui,
pour prendre l'air. Et finalement, tu te poses à Londres. Et là, en novembre 2009, tu crées donc ta deuxième société, Made.com. Alors cette fois, comment est venue l'idée?
En sortant de MyFab, donc tout est arrivé assez vite. Bien sûr, là, j'ai eu ma première sortie. C'était un peu d'argent, pas énormément d'argent, mais j'ai eu suffisamment d'argent pour me dire maintenant, je vais payer les pensions de mes parents.
Ah, c'est là que tu as commencé
j'ai
à
rembourser.
J'ai aussi
acheté un appartement, donc pour d'abord la sécurité, et puis ensuite, il a fallu le meubler. Donc, j'ai eu l'expérience personnelle d'acheter un canapé, les meubles. C'était un canapé qui coûtait, je me rappelle, 3 à 4 000 euros. Donc, c'était beaucoup d'argent, tu vois. J'ai pris une photo sur mon BlackBerry et j'allais le payer. Donc, sauf avant de payer, je me suis dit, je vais quand même demander à quelqu'un. Donc, c'était un ami de mon enfance qui a grandi avec moi dans le sud de la Chine, à Foshan. Et je sais qu'il allait prendre l'usine de ses parents qui faisait des meubles. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce canapé? Est-ce que c'est la bonne qualité, etc. Il dit, mais attends, laisse-moi vérifier. Il est revenu vers moi. Il dit, c'est nous qui produisons ce canapé. Il savait pas à qui il vendait, parce qu'il vendait à plus des importateurs qui revendaient à la marque. Mais j'étais curieux, mais à quel prix tu as vendu à l'importateur? Donc il m'a dit 250 $, un truc comme ça. Donc c'était,
ah oui,
c'était un multiple.
Tu dis qu'il y avait quand même une grosse différence.
C'était 15 fois, c'était fois 10, fois 15, énorme. Évidemment, j'ai acheté auprès de lui. En direct, mais je me suis dit est-ce qu'il y aurait pas une opportunité de business à faire à ce moment-là sur internet. Et à travers MyFab, j'ai déjà vu que le vertical de vente en ligne de meubles, même sans marque, pouvait réussir parce que les gens étaient déjà prêts à payer des sommes assez importantes pour acheter des produits quand il y a un rapport qualité-prix intéressant. Donc, on est parti sur la levée de fonds, etc. Et beaucoup de VC ne croyaient pas que les gens allaient vraiment un jour payer 500 € et 1 000 € sans toucher et voir le produit. Et moi, j'avais la conviction, mais aussi surtout un peu d'inside à travers mon expérience précédente, que les gens allaient le faire.
Donc, le succès est fulgurant. Hein, Made.com, Made.com, tout le monde connaît. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent l'ont utilisé. En 2017, tu quittes ta fonction de vice-président du conseil d'administration, mais tu restes un actionnaire important. Et en 2021, tu vis de très près l'entrée en bourse de Made, qui est alors valorisée 500 millions de dollars. Tu as quel sentiment quand Made devient public? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé avant? Tu t'étais dit, bon, ça va être la suite?
Alors, donc moi, mon rôle, j'ai géré cette boîte jusqu'à... Donc, comme en 2017, quand la marque réalisait 100 millions de chiffres d'affaires et c'était à peine rentable. Et la société allait jusqu'à faire 500 millions de chiffres d'affaires. Donc, quand la société s'est introduite en bourse pour 1 milliard de dollars, c'était une partie de parcours où j'ai suivi un peu de loin en tant que fondateur, mais c'était aussi une partie de parcours que je me suis dit, j'ai été très bien pour la première partie, c'est 0 à 100 millions. Je suis entrepreneur, je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien toucher l'essentiel.
De 0 à 1. Ouais.
Mais à partir de 100 millions, j'ai trouvé que c'était quand même une vie très différente, à l'époque en tout cas, qui m'intéressait beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'ai demandé à notre CEO à l'époque, Philippe, de prendre la suite, et ce qui m'a permis de rentrer en France et suivre un peu l'affaire de loin. Ça, c'était une décision rationnelle, mais même après, sur le plan émotionnel, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se détacher d'une boîte que tu as créée, et de dire, bon, voilà, tu gères pour moi. Mais je pense que la distance, ça pourrait aider, parce que Made.com était à Londres, et je suis rentré physiquement à Paris. Ça m'a permis aussi de prendre un peu de distance et puis de réfléchir à une autre aventure.
Mais tu es resté quand même intimement lié justement à Made, justement après cette entrée en bourse, Stéphanie.
Oui, mais un an et demi après l'IPO de Made, le groupe enchaîne les difficultés pénalisées par la baisse de l'inflation, par la baisse de la demande liée à l'inflation et aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. En novembre 2022, faute d'avoir trouvé de nouvelles sources de financement, Made est placé sous administration en vue de sa liquidation. Et même si vous aviez quitté l'entreprise en 2017, hein, vous l'avez dit, vous proposez à trois reprises de racheter Made hein, pour sauver le business et l'emploi. C'est ce que vous avez expliqué hein, sur un post LinkedIn à ce moment-là. Proposition qui est refusée par le conseil d'administration. Et finalement, c'est le groupe Next, le groupe britannique Next, qui rachète la marque, les noms de domaine, la propriété intellectuelle de Made.com. Montant de l'opération, 3,9 millions d'euros.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à sentir que ça allait moins bien et que l'entreprise allait mal et que tu n'étais plus là? Est-ce que tu as ressenti plutôt une forme d'impuissance Bon, là, tu as essayé de sauver, clairement. Est-ce que tu as une culpabilité? Comment ça se passe, justement, quand tu vois ton bébé qui a des difficultés?
Oui, je crois que quand on crée une marque, c'est presque un enfant qu'on donne naissance au monde. Et de le voir quitter la maison et ensuite avoir des difficultés, c'est un... Bien sûr, ça nous touche émotionnellement et personnellement. Et à ce moment-là, je suivis en fait tout l'essor, mais aussi la descente de la marque. Et la question qui m'a traversé l'esprit, c'est quel est mon rôle dans cette histoire? Est-ce que j'ai encore un rôle à jouer après que cette marque ait rencontré des difficultés? Est-ce que je peux la retourner? Est-ce que je peux la redonner un second souffle? Et mon constat de ce moment, en fait, c'était que quand la société avait fait l'hypercroissance et on avait beaucoup focalisé sur la croissance, mais pas forcément le process et la simplicité de l'opération. On avait, bien sûr, il y avait des conjonctures externes, il y a aussi beaucoup de difficultés internes. Je pensais que probablement en reprenant la société et en remettant tout à zéro, j'aurais pu lui donner une seconde chance. Évidemment, la loi anglaise de reprise d'entreprise étant un peu différente, puisque mon offre comportait notamment une sauvegarde de 100 emplois, rembourser 30 millions d'euros de clients. Mais en Angleterre, en fait, toutes ces considérations-là étaient beaucoup moins importantes que le cash que vous mettez sur la table. Et moi, je n'avais pas toutes les ressources pour payer tout le cash que l'administrateur demandait.
Sacrée histoire. Et on a justement une petite surprise pour toi. On a une petite question de quelqu'un que tu connais très, très bien. Attention, la question est très courte. C'est une question de Brent Oberman, justement, pour toi.
Qui t'a plus enseigné dans le monde d'affaires, Marc Simoncini ou moi?
C'est dur hein, comme question.
Sacrée question.
C'est pas facile. C'est pas facile. C'est court, mais c'est efficace.
C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai eu Marc Simoncini et ensuite Brent Oberman, tous les deux en mentor et puis en associé. Donc, pour quelqu'un qui est venu d'une famille moyenne dans le sud de la Chine, nobody, je pense que j'ai eu beaucoup de chance déjà d'arriver en France et puis d'être associé avec ces grands entrepreneurs-là. Marc, il m'a donné envie d'entreprendre. Il m'a dit, quittant de rien, n'a rien. Donc je me suis lancé vraiment dans l'aventure entrepreneuriale en observant Marc au quotidien. Bren, il m'a quand même donné cette opportunité de m'installer à Londres, mais il m'a surtout ouvert aussi les yeux pour le marché anglais et puis tous les talents là-bas. Donc c'est...
Très bien, donc ils t'ont tous les deux apporté énormément. Et depuis 2018, donc, tu as lancé une troisième aventure, Typology, une marque responsable de cosmétiques qui est basée à Paris, donc qui est vendue elle aussi 100% en ligne sur typology.com. Comment t'es tombé dans le monde des cosmétiques? Comment c'est arrivé?
Alors quand je suis rentré en 2017 en France, j'avais pris un peu de distance avec Made.com, donc j'avais beaucoup de temps ici. Et donc, je me suis marié, j'ai eu une fille, et ma femme, après le congé mat, retournait au bureau. Donc, je me suis trouvé homme au foyer. C'est moi qui étais en charge de tous les achats du foyer. J'étais en charge notamment d'acheter toutes les couches. À un moment, je devais acheter les crèmes pour ma fille qui faisait un peu d'eczéma. Et c'est là où j'ai découvert un peu le monde de la cosmétique. Donc, il se trouvait que je me suis pointé à la pharmacie de la République. Il y avait 200 crèmes et j'étais vraiment incapable de faire le choix parce que je n'étais pas vraiment intéressé jusqu'à là. Et quand finalement, j'ai pris un pot de crème sur le conseil du pharmacien et je suis rentré à la maison. Donc, je me suis dit quand même, j'ai envie de connaître un peu ce que c'est dans cette crème puisque je suis de nature un peu sceptique. Et j'ai retourné le pot de la crème, j'ai commencé à lire tous les ingrédients. Et c'est là où je me suis un peu fait. J'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est tous ces noms que j'arrivais pas à prononcer. Donc, quand j'ai fait la recherche sur Google, et je suis tombé vraiment sur les articles, les forums, toutes les informations qui disent les dangers de certains ingrédients et les bienfaits de d'autres. Et ça m'a vraiment pas du tout rassuré. Et j'ai commencé à demander un peu autour de moi, mes amis. Et il se trouve que la plupart de mes amis, avec ou sans enfants, ils ont tous la même question. C'est-à-dire, est-ce que le produit que j'achète pour manger, mais aussi pour mettre sur mon corps, est vraiment bien? Est-ce qu'il y a des conséquences de santé à long terme? Et en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, probablement, il y a une opportunité ici à créer une nouvelle marque, mais en posant vraiment les bonnes bases de formulation, avec une éthique de formulation qui est très stricte, en écartant tous les ingrédients qui sont controversés et dangereux pour la santé et pour l'environnement, avec un packaging qui est recyclé, recyclable, parce que le monde de cosmétiques et de consommation est très, très polluant, et créer aussi une marque qui est vendue en ligne, donc un secteur que je connaissais suffisamment bien pour me sentir confortable de me lancer. Et c'est devenu un peu la marque qui est aujourd'hui Typology.
Donc 100% en ligne, lisible, compréhensible, on comprend ce que ça fait. Mm-hmm. Responsable justement, parce que lisible, donc tu es obligé de bien montrer ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce que tu as appris justement de tes expériences entrepreneuriales et qu'est-ce que tu fais différent aujourd'hui avec Typology par rapport à tes expériences d'avant?
Je pense que là, quand j'ai créé ma première boîte, MyFab, j'étais encore dans ce. Je pense que mon objectif à ce moment-là, je t'ai dit enfant unique, pression de sécurité, mais surtout de pension alimentaire pour mes parents. Mon but était presque de trouver le plus d'argent possible, le cash. Donc, quand il y avait le premier offre de rachat arrivé, c'était. Je l'ai prise parce que c'était le but. Ouais. Voilà, très bien. Je pense que ma motivation a un peu évolué aussi à travers Made.com jusqu'à présent. Et ma perspective aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus... j'ai envie de construire quelque chose beaucoup plus sur le long terme. Typology, qui est une société que j'ai créée au sein d'un projet qui s'appelle Good Brands, je le vois un projet à 50 ans, puisque créer une belle marque, ça demande du temps et ça demande de la patience. Et je pense qu'un entrepreneur qui a une perspective de temps beaucoup plus longue que quelqu'un d'impatient, ça peut être beaucoup plus puissant, surtout sur le long terme.
Donc ça repose sur quoi, une marque qui doit durer longtemps par rapport à une marque qui potentiellement passe plus vite?
Ça veut dire toujours prioriser les décisions pour la marque avant le chiffre d'affaires. Par exemple, on n'a jamais fait une solde, on n'a jamais donné un seul code promo, donc on n'a jamais voulu stimuler le chiffre d'affaires au détriment d'une image de marque, mais aussi d'une croissance plutôt à long terme pour le compte de court terme.
Et le résultat, c'est que Typologie est très, très bien partie. C'est le moins qu'on puisse dire, Stéphanie.
Effectivement, cette stratégie porte ses fruits. Hein. 3 ans après son lancement, Typologie devient à ce moment-là la marque skincare la plus vendue en ligne en 2021, selon le cabinet Fox Intelligence. La stratégie 100% digitale porte ses fruits grâce aux avis clients, aux influenceurs, mais aussi aux bouches à oreille. Typologie est présente dans 6 pays aujourd'hui, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et la marque compte plus de 300 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Donc comme pour Made, t'es parti d'un besoin personnel en fait. Hein. C'est-à-dire que sur Made.com, c'était l'histoire du canapé. Sur Typologie, c'est l'histoire de ne pas comprendre comment fonctionnent les produits. Donc tu veux que ce soit beaucoup plus clair. J'espère que tu vas nous partager ça un jour dans un livre, si tu trouves le temps d'écrire un livre, mais il faut partager ton expérience. Parce que là, on le fait dans Les Pionniers, c'est très bien. Mais c'est bien aussi d'aller peut-être rentrer dans le fond des sujets, surtout quand tu parles de culture et de marques qui durent. Je pense que ça intéresse énormément toute la nouvelle génération d'entrepreneurs. Et avant de terminer, on a encore une petite question de Brent Oberman.
Ah, ok.
Ning, est-ce que Typology est l'entreprise de ta vie ou tu penses en créer plein d'autres?
Ah, elles sont toujours courtes, les questions de Brent, mais elles sont au bon endroit.
Ouais. Délicat, parce que Brent est aussi un investisseur, donc ça...
Alors, Typology, l'entreprise de ta vie ou bien une avant la prochaine?
Je pense que j'ai certainement une perspective beaucoup plus longue. Je t'ai dit 50 ans, c'est la perspective de l'entreprise. Est-ce que j'irai jusqu'à là à dire c'est l'entreprise de ma vie et que je n'en ferai pas d'autres? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on a créé Typologie au sein d'un projet qui s'appelle Kubrands. Donc, c'est le projet consiste à créer non seulement pas une marque, mais plusieurs marques pour en racheter. En tout cas, c'est le rêve un peu qu'on se donne pour.
Et donc, good brands, donc ça définit aussi la culture. Tu veux des bonnes marques.
C'est ça.
C'est quoi une bonne marque?
Je pense que franchement, dans la cosmétique ou dans la lumière de la consommation, il en manque pas de marques. Il y a plein de marques. Et si on doit en créer aujourd'hui, autant qu'elles soient dans les valeurs et dans l'éthique du jour. Donc, responsable, des bonnes gouvernances. Et les marques qui sont respectées et aussi respectables de l'environnement et de l'humain.
Merci beaucoup, Ning, pour ce partage d'expérience.
Merci.
Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
C'est la suite des pionniers avec le pitch. On enchaîne avec aujourd'hui Stéphanie Collo et Maya Noël, directrice générale de France Digital, la plus grande association de start-up et d'investisseurs en Europe. Alors chaque semaine, vous le savez, nous recevons des entrepreneurs, des start-upers qui viennent nous présenter leur activité et nous font un pitch et nous leur donnons des conseils. Vous savez que vous aussi, vous pouvez candidater. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission ou bien tout simplement scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
On commence tout de suite avec notre premier pitcher du jour. Nous recevons Romain Schmitt. Bonjour Romain,
bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes le président et fondateur de FarmCube, accélérateur de recherche dans le végétal. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Suivront des questions, des conseils également. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
Il y a un point commun entre l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, les vignerons, les gestionnaires forestiers. Au cœur de leur activité, il y a la plante. J'ai créé FarmCube pour sécuriser l'approvisionnement en matière végétale pour les industriels. Parce que cet approvisionnement, il est menacé, il est en danger. Ça fait 2 ans que la France importe plus qu'elle n'exporte. On a délocalisé notre agriculture. Les raisons sont le climat, évidemment, les événements géopolitiques. FarmCube a pour mission de remettre cette agriculture sur notre territoire par l'innovation et la recherche. Mes équipes ont créé pour ça une machine, le FarmCube. C'est une chambre climatique de 15 mètres carrés au sol qui peut abriter jusqu'à 5000 plantes, au sein qui pousse avec une technique de culture qui nous permet d'économiser jusqu'à 98% d'eau. Au sein de cette installation, on maîtrise tous les aspects de la croissance de la plante, tous les aspects du climat, tous les aspects de la nutrition, la durée du jour, de la nuit, la température, l'humidité, le CO2 évidemment. Tout est piloté par notre logiciel et on récupère les données et on les analyse pour essayer de comprendre l'effet du climat sur les plantes. Notre offre, c'est d'accompagner nos clients dans leur transition agroécologique en leur proposant d'abord d'expérimenter au sein de nos installations pour comprendre leurs problématiques et les accompagner avec des solutions de terrain. Et enfin, on est capable de concevoir, fabriquer et installer des chambres de culture, cette fois sur mesure, qui vont pouvoir leur permettre de garantir leur approvisionnement en matière végétale et ce, à l'épreuve du climat.
Merci beaucoup Romain Schmitt pour PharmCube. Fred, on commence avec tes questions.
Alors concrètement, il s'agit d'une ferme en forme de cube ou plus ou moins.
C'est un cube en bois.
Un cube en bois que vous allez installer directement chez les producteurs.
Là, en avril, par exemple, on ouvre un centre de R&D à Besançon, notre ville. On a 400 mètres carrés d'expérimentation où on va mettre, nous, nos machines, nos cubes de 15 mètres carrés, au sein de cette installation. Donc, on va avoir la capacité de générer plein de climats différents. Et on accompagne, on a déjà deux grands comptes qu'on accompagne sur la vigne et sur la forêt, et sur l'agroalimentaire aussi. Et le but de ces installations de 15 mètres carrés, c'est vraiment de travailler sur la partie d'abord recherche. Par contre, une fois qu'on a identifié les paramètres, les points de croissance qui vont permettre de faire émerger des qualités chez la plante, par exemple, on a développé un process de culture qui nous permet de produire des arbres qui sont plus résistants à la sécheresse. Dès lors qu'on a identifié les paramètres qui nous permettent de faire ça et de l'automatiser 12 mois de l'année. Là, on déploie une installation qui peut être bien plus grande. Ça peut être des champs climatiques de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. Ça dépend du besoin en rendement et en qualité du client.
Alors, j'ai entendu 98% de consommation d'eau en moins. Et sur le reste des paramètres environnementaux, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Est-ce que vous avez fait le cycle de vie complet d'une ferme? Est-ce que vous avez besoin de mettre beaucoup de lumière pour faire tout pousser? Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie? Est-ce que pour fabriquer quelque part, alors c'est en bois, mais j'imagine qu'il n'y a pas que du bois, parce que ça doit être un petit peu aussi protégé au niveau thermique, donc il doit y avoir autre chose que du bois aussi. Alors, c'est construit en quoi et quel est le cycle de vie complet peut-être énergétique d'un PharmCube?
Ouais, c'est une très vaste question, parce que c'est un produit très complexe. On a travaillé sur toute la partie structurelle sur l'éco-conception de la partie bois et de la partie isolation pour que ce soit sourcé un maximum en France et que ce soit sourcé dans des forêts équitables, bien sûr. Sur tous les autres aspects de la machine, donc évidemment on a de l'éclimatisation, on a des LED, tous nos fournisseurs industriels sont ou en France ou en Suisse, donc on a maintenu un écosystème industriel européen, on va dire. Par contre, il reste encore pas mal de travail sur effectivement le cycle de vie de la machine, mais aujourd'hui c'est une machine qui est essentiellement utilisée à des fins de recherche. Dès lors qu'on va la déployer pour des fins de production, ce sera là que ce sera beaucoup plus pertinent d'aller faire ce travail écologique. Après, pour l'aspect, je pense que tu as aussi abordé la question de l'énergie. Donc tout ce qui va, ça c'est pour la fabrication de la machine. Une fois qu'on la met en service, combien d'énergie effectivement utilise. Alors, on est complètement indépendant du climat extérieur. C'est très important, notamment parce que ça nous permet de faire de la recherche 12 mois de l'année. Là où il faut attendre la bonne saison pour aller expérimenter en champ, nous en hiver, on continue d'expérimenter. De fait, on a effectivement des panneaux de LED qui ont été développés avec l'INRA pour imiter le plus possible le rayonnement du soleil. Et ça a un intrant énergétique évident. Ce qui veut dire que en termes de production, en termes de recherche, ça peut s'appliquer à un champ très large, mais en termes de production, c'est pas destiné à faire pousser n'importe quel type de plante. Ce serait absurde d'aller faire de la plante à basse valeur ajoutée. L'idée, c'est d'aller sur des plantes qui ont une vraie valeur ou qui ont une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on est forcé de les délocaliser. Et dans ce cas, ça devient intéressant de mettre un intrant supplémentaire. Par contre, et je termine là-dessus, désolé, il y a zéro pesticide à l'intérieur. On filtre l'eau, on filtre l'air, on est dans un environnement qui est propre.
D'accord, merci.
Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Romain.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé le pitch de Romain, qui était très percutant dès le début. Tu t'attaques directement au marché potentiel. Tu donnes tous les acteurs qui vont pouvoir potentiellement utiliser ta machine. J'ai bien aimé aussi le fait que tu inscrives en fait ton business dans une mission plus globale, qui est vraiment la relocalisation de l'agriculture française. Et après, tu passes directement, tu expliques ce qu'est ton produit. Sur les points d'amélioration, je dirais que, comme tu dis, c'est un produit qui est assez complexe. Donc c'est assez difficile de l'imaginer, et comme t'es parti directement sur un marché très large, moi j'avais du mal à imaginer du coup qui l'utilise concrètement et à quelle fin. Par la suite, on a compris qu'aujourd'hui c'est qu'au stade de recherche, donc je pense que c'est d'autant plus compliqué, tu vois, de donner un exemple très concret. Mais j'aurais besoin, et je pense que quelqu'un de plus novice sur ton marché, d'avoir un exemple beaucoup plus parlant, parce que tu dis, bah là c'est une chambre climatique, à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc un tout petit peu plus d'images parlantes pour un novice pour être intéressant. Mais après, la structure de ton pitch est très très claire et on voit tout à fait où tu veux en venir. Et j'ai beaucoup aimé du coup l'énergie dans ce pitch-là.
Merci beaucoup Romain Schmitt. Je rappelle que vous êtes le président et le fondateur de PharmCube. On accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit de Laurent Calu. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Boni.fr, plateforme d'achat immobilier en ligne. Je vous rappelle les règles. 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Suivront des questions puis des conseils. Mais d'abord, c'est à vous.
Boni, c'est le premier site qui permet un parcours autonome, 100% digital, sans intermédiaire, pour acheter un appartement neuf, pour habiter ou investir. Et ça va de la recherche du bien jusqu'au compromis de vente. Donc on est les premiers à aller aussi loin dans la digitalisation du secteur. Ce qu'on veut, c'est disrupter le marché et casser les codes finalement. Alors il y a plein de portails qui référencent une offre d'immobilier neuf, mais ce sont avant tout des générateurs de leads. L'offre n'est pas forcément à jour, les infos fournies sont sommaires et on est toujours contraint d'être appelé par un conseiller ou un vendeur. Acheter sa résidence principale dans le neuf, c'est le parcours du combattant. Et acheter un investissement locatif dans le neuf, ça engage à rencontrer beaucoup de conseillers et faire face parfois à des conseillers où il y a un manque de transparence, voire d'objectivité. Donc Boni s'adresse au particulier qui veut mener son projet en autonomie, dicter son tempo, le maîtriser et le conclure en ligne. Ça repose sur 5 piliers, une offre très très large de plus de 70 000 logements mis à jour en temps réel, en instantané. Toute l'information est fournie en temps réel, donc sans avoir recours à une inscription, on voit tout de suite. Un algorithme capable de scorer et d'évaluer les biens. Une signature tangible en ligne et surtout beaucoup de pédagogie pour rassurer et former les gens à l'investissement locatif dans le neuf. Voilà, on a 3 cibles essentielles. La première, c'est toute la nouvelle génération d'acheteurs 3.0 qui a les codes internet et qui sait consommer en ligne. L'investisseur qui a déjà investi, souvent il a été accompagné la première fois, mais aujourd'hui il veut mener de A à Z en autonomie. Et les gens qui ont déjà un projet en tête, qui veulent s'émanciper et s'extraire de l'influence. Voilà. L'acquisition du neuf, c'est 120 000 logements par an, en moyenne. Donc il y a une place à prendre sur ce marché.
Merci beaucoup Laurent Calu. On commence avec tes questions Fred pour Laurent.
Merci Laurent. Alors est-ce que, parce qu'il y a quand même une dimension très importante dans un achat immobilier, qui est le côté emprunt. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Parce que, enfin, on se dit, j'ai vu l'écran comme tout le monde, acheter neuf en ligne tout seul. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas être tout seul quand même, il faut aller chercher des sous quelque part. Est-ce que vous faites un accompagnement quand même d'une certaine manière sur ce côté-là aussi, le côté oui. financier? Pas uniquement le côté recherche et le côté description du bien, ça j'ai compris qu'il oui. y avait un déficit à ce niveau-là.
L'idée, c'est de laisser en autonomie jusqu'à la réservation donc tangible d'un actif. Mais après, évidemment, Boni prend le relais, Boni s'occupe du reste. Donc on a une filiale de courtage. On va être en mesure d'aller chasser la dette cohérente. De la même manière, on a une boîte de comptabilité qui peut assister les gens sur l'expertise comptable. Et on peut aussi mettre les gens en relation avec des organismes de gestion pour toute la partie administration de biens lorsqu'il s'agit d'un investissement locatif. Voilà. Donc nous, on prend le relais une fois que la réservation est actée pour mener l'opération jusqu'à chez le notaire et sur le suivi moyen terme.
Mais alors, donc, vous proposez, alors forcément, si c'est une nouvelle manière de faire en ligne et de manière autonome, vous proposez une forme d'optimisation de ce qui existe. Quel est le pourcentage ou quels sont les coûts que vous permettez d'optimiser au juste? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va coûter moins cher? Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement vous êtes différent, vous êtes plus attractif? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a pas ou plus de contact, j'ai envie de dire, avec un conseiller humain, et donc en fait c'est moins, enfin j'ai entendu ça, c'est moins ennuyeux que de se faire rappeler ou d'avoir toute cette prospection là, ou est-ce que c'est aussi un gain réel en coût qui est significatif par rapport au prix du logement, parce que peut-être qu'on se dit que 1 ou 2 ou 3 ou 10 coups de fil par rapport au prix du bien considéré qui est un bien immobilier, c'est en fait peut-être négligeable sur l'ensemble de la facture. Ça représente quoi?
Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, donc très terre à terre, nous, on est rémunérés comme apporteurs d'affaires. Voilà, donc, en fait, le promoteur nous rémunère, les promoteurs nous rémunèrent et les promoteurs rognent sur leur marge pour nous payer. D'accord? Donc, vous achetez 100 avec un promoteur X, vous achetez 100 avec Boni. D'accord? Donc, c'est totalement transparent, c'est indolore pour l'acquéreur, il n'y a pas d'honoraires supplémentaires. Ça, c'est un vrai point de différenciation parce que dans la majorité des autres écosystèmes, il y a toujours des honoraires comme un cabinet d'avocat qui viennent s'appliquer en plus pour l'acheteur. D'accord? Pas systématiquement, mais très fréquemment. Le deuxième point, il n'est pas financier en termes de gains, c'est plutôt de militer pour la transparence. L'immobilier a toujours souffert d'une relative forme d'opacité. C'est-à-dire qu'on transmet pas forcément toujours l'exhaustivité des informations. On a du mal à vraiment récupérer en temps, en heure, ce dont on a besoin. Là, c'est la première fois qu'il y a une plateforme qui, sans avoir recours à une inscription, fournit tout avec immédiateté. Voilà. Des plans, les prix, les documents, les plans de masse, l'état des risques naturels et technologiques, les notices descriptives. Sans s'inscrire, on a accès à tout, tout de suite. Et donc, cette transparence est nouvelle, parce que en immobilier, on ne la retrouvait pas jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est deux aspects différents, mais il y a une corrélation.
Merci.
Maya, on passe à tes impressions sur le pitch de Laurent pour Bonnie.
Moi, j'ai trouvé que dans le pitch, il y avait beaucoup d'éléments qui, du coup, permettent de comprendre l'outil. Après, c'est vrai que j'ai pas tout de suite été embarquée parce qu'on allait directement sur la plateforme, le côté hyper concret de ce que c'est. T'as expliqué juste derrière, en fait, la comparaison avec les offres existantes, mais disons que ça faisait tellement d'informations d'un coup que j'ai eu un peu du mal à prendre du recul. Là où j'ai tout de suite raccroché, c'est quand tu as dit, bah, en fait, les personnes à qui on s'adresse, bah, c'est cette typologie-là. Voici la taille du marché. Enfin, tu vois, là, je me suis un peu raccrochée, mais ça arrivait à la fin. Au début, j'avais beaucoup trop d'informations sur un marché que je peux être potentielle cliente, du coup. Je me dis, j'avais du mal à comprendre vraiment le distinguo avec les autres acteurs, même si tu les as cités, parce qu'en plus, tu as dit, bah, voilà, nous, ce qui nous différencie avec les autres acteurs du marché, c'est que tout est dessus. Enfin, il y a toujours des pièces manquantes ailleurs. Nous, il y a tout, mais j'ai pas réussi à comprendre quelles étaient ces pièces véritablement. Parce que c'est arrivé tout de suite, trop vite.
D'accord.
Et je pense que ça pourrait valoir le coup d'un tout petit peu plus simplifié dès le départ en disant effectivement, moi là, le gros argument que je retiens de notamment la discussion après, c'est la transparence, tu vois. Et c'est pas du tout un élément que j'avais retenu dans ton pitch. Si c'est ça l'élément différenciant de dire vous avez tout, du coup c'est beaucoup plus transparent et ça vous facilite la vie parce que vous n'avez aucune étape où vous pouvez vous faire avoir. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais sinon, en revanche, hyper clair, on sent que tu maîtrises tout ça, toujours beaucoup d'énergie. Je suis impressionnée pour toujours l'énergie de
c'est
pitch.
Le plateau, tu sais.
C'est le plateau qui fait ça, mais c'est hyper agréable et je trouve ça super de t'écouter et ça donne envie. Mais voilà, encore une fois, je trouve que ça mériterait d'être. J'ai accroché à la fin, tu vois. Parce que c'était beaucoup plus concret et t'es rentré directement dans le côté un peu technique de ta plateforme.
Très bien, merci beaucoup. Merci Laurent Calu, merci je rappelle beaucoup, que vous êtes merci. Le cofondateur de Bonnie.fr. Merci beaucoup Maya.
Merci à vous.
On te retrouve dans une prochaine émission. Si vous voulez pitcher aussi pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, c'est très simple. Rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Il y a aussi l'adresse mail, hein, lespionniers@bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission. C'est Fred questions. Vous répond.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer vos questions sur votre activité, sur l'entrepreneuriat en général, l'écosystème de la French Tech, le futur de ce que vous voulez et les bonnes méthodes pour créer une société. Vous pouvez envoyer vos questions tout simplement sur le site de l'émission ou bien en scannant le QR code qui s'affiche à votre écran. Stéphanie, cette semaine.
Et on commence tout de suite avec la question d'Amara. Qui sont les personnes qui vous inspirent ? Vaste sujet.
Oui, alors en fait, beaucoup. D'ailleurs, il y a une citation, la citation que je préfère, je crois, d'entre toutes les citations que j'ai vues dans ma vie. C'est une citation de Galilée qui dit « Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre ». C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tout dans cette citation. Il y a à la fois le fait que chaque être humain a une richesse incroyable. Il y a aussi une autre citation qui dit que tout être humain est un livre ouvert. Enfin bon. Donc en fait, il y a plein de choses à aller chercher chez tout le monde. Il y a aussi l'humilité justement de savoir comprendre qu'on ne sait pas grand-chose et que justement on va apprendre des interactions. Ce qu'il faut voir, c'est que chez chaque personne, il y a différentes facettes, plein d'actions, plein de qualités qui sont différentes. Et il faut soi-même aller piocher ce qui nous plaît. C'est-à-dire que on va interagir avec quelqu'un, avec différentes personnes, on va voir des exemples et on va voir ce qu'ils ont fait dans une certaine dimension. Et on va pouvoir être inspiré par ces actions-là, ces pensées-là. On va pas forcément être inspiré par l'ensemble de ce que cette personne a pu faire, puisqu'on est tous chacun unique, et donc on va pouvoir s'intéresser plus à certains aspects qu'à d'autres. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir l'oreille vraiment ouverte quand on rencontre des nouvelles personnes et quand on lit des histoires sur tout ce qui peut se passer ou tous les exemples que l'on peut avoir à notre portée dans différents domaines qui peuvent nous intéresser pour aller chercher vraiment ce qui nous correspond aussi et ce qui va vraiment nous inspirer. On le voit, je suis aussi très inspiré par tous les pitchers qui viennent dans l'émission des pionniers. On voit qu'ils ont cette envie-là d'aller créer quelque chose de nouveau. Et très souvent, justement, les étoiles dans les yeux et l'envie, c'est aussi une source d'inspiration. Il n'y a pas forcément que ce qu'on a déjà fait, il y a aussi ce qu'on va faire qui est très inspirant.
On enchaîne sur la question de Jean-Baptiste. Avez-vous dû revenir sur une décision ou annuler un investissement ou un projet lancé pendant la croissance de Blablacar ?
Alors sur Blablacar, oui. Dans la vie en général, oui. Je pense que justement, une des grandes choses importantes, c'est de comprendre le moment où il faut arrêter d'aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Alors si j'en prends des exemples sur Blablacar, nous, à un moment, on s'est rendu compte que nos investissements, notamment sur certains pays, marchaient beaucoup moins bien que sur d'autres. Hein. Donc Blablacar s'est étendu dans une vingtaine de pays en 3 ans hein, quand on a fait notre croissance. Donc c'est véritablement une sorte de marathon quand on ouvre une vingtaine de pays en 3 ans. Et donc sur ces 3 années-là, et sur les 20 pays, il y en a 2-3 qui marchaient moins bien que les autres. Et il a fallu qu'on prenne une décision au bout de justement 3-4 ans, se dire là on va arrêter d'investir sur ces pays-là parce que par rapport aux 17 autres, ces 3-là, ils marchent moins bien. Donc on ne va pas aller gaspiller trop d'argent d'investissement ici quand on a d'autres pays qui marchent mieux. Il faut être capable de le reconnaître. Alors les chiffres aident assez souvent, la comparaison aide beaucoup aussi pour savoir si ce que l'on fait est la bonne chose ou pas. Parce que typiquement, quand on ouvre un pays ou 2 pays, aller comparer, savoir si ça marche bien ou pas, c'est assez difficile. Par contre, paradoxalement, quand on en ouvre 20, en même temps, on voit assez vite ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, parce qu'on peut les comparer. Donc ça, c'est un gros avantage. Et derrière tout ça se cache en fait une certaine notion de coût irrécupérable. C'est-à-dire que, alors j'adore cette notion-là, en anglais on dit sunk cost, c'est la notion qui permet de comprendre que c'est pas parce qu'on a déjà payé pour quelque chose qu'on doit payer pour la suite. Typiquement, si je t'offre une place de cinéma et que je te dis, alors c'est une place qui vaut normalement 10 euros, mais si tu vas au cinéma, tu ne paieras que 5 euros, et que là tu arrives devant le cinéma et que la place que je t'ai donnée, c'est pour aller voir un film que t'aimes pas. Est-ce que tu vas plutôt payer 5 euros de plus pour aller voir un film que t'aimes pas? Ou est-ce que tu vas dire, tant pis, la place que Fred m'a donnée, c'est bien, mais en fait, j'ai pas. Voilà. Donc, tu vas passer ton chemin et ne pas aller au cinéma en disant, c'est pas grave, je rate ça. Ou est-ce que tu vas dire, carrément, j'achète pour 10 euros une place pour un film qui me plaît. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut se poser comme question quand on a fait ces investissements. Et donc, nous, concrètement, sur Blablacar, quand sur les 17 pays, il y avait en fait l'Inde, le Brésil, l'Inde, le Mexique et la Turquie qui marchaient moins bien que les autres pays, il a fallu qu'on décide de désinvestir un petit peu. Mais on a quand même gardé nos activités dans ces pays-là. Et aujourd'hui, c'est des pays qui continuent à grandir, même si on a désinvesti un petit peu à un certain moment, justement, pour rééquilibrer nos dépenses. Ouais. Voilà. La notion la plus importante, c'est la notion de sunk cost, de coût irrécupérable, comprendre qu'on n'est pas obligé de continuer à investir ou surinvestir parce qu'on a payé dans le passé. Il faut réévaluer et reprendre ses repères et décider de la réallocation de nos ressources.
Merci beaucoup Fred pour toutes ces réponses aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast, en replay, sur les plateformes. Et c'est fini pour aujourd'hui Fred, mais on se retrouve très vite la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine, avec plaisir.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.